Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales PACT à Grenoble.
Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Impact, le podcast du laboratoire PACT à Grenoble. Dans cette quatrième saison, nous allons décortiquer ensemble les sciences participatives. Quels en sont les cadres, les expériences à des niveaux locaux ou internationaux ?
Dans cet épisode, nous parlons d'une recherche en lien avec la protection de l'enfance en fédérant les enfants de l'aide sociale à l'enfance, des adultes qui sont passés par les foyers et les équipes encadrantes. Bonne écoute ! Et pour ne manquer aucun épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée.
Aujourd'hui, nous recevons avec nous Camille Duty, sociologue post-doctorante pour la chaire publique des politiques sociales au sein du Labo PACT, dont on a déjà parlé dans un précédent épisode, on y reviendra, qui est également formatrice en école de travail social et aussi consultante indépendante. Derrière toutes ces casquettes, nous allons en fait faire un focus sur un projet de recherche. Et avant même de commencer ce focus, en fait, peut-être que c'est important de resituer un petit peu le contexte dans lequel votre recherche s'inscrit. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire quelques mots sur qu'est-ce qui gravite autour de votre recherche, d'où elle a émergé, le paysage de la recherche dans lequel vous avez évolué ?
Le cadre un peu plus spécifique, c'est l'hébergement collectif des jeunes dans la protection de l'enfance, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément les foyers. Et la dénomination administrative, c'est MEX, Maison d'enfants à caractère social. Ce dont je viens parler aujourd'hui, c'est une recherche sociologique et participative en protection de l'enfance. Donc quand je dis participative, c'est qu'en fait, la recherche, elle repose sur une équipe de co-enquêteurs qui sont engagés dans la recherche à tous les niveaux, de son démarrage, de sa construction, de son sujet, de ses méthodologies, de l'enquête en tant que telle et de l'analyse. Et l'équipe de co-enquêteurs, elle est composée par des jeunes qui sont actuellement placés en foyer. Je vais revenir après sur le cadre un peu plus précis. Des adultes qui ont été placés dans leur enfance ou dans leur adolescence dans des structures d'hébergement collectif, de l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. De professionnels aussi qui ont travaillé ou qui travaillent actuellement dans ces structures-là et de moi-même en tant que sociologue coordinatrice du projet.
Et donc ce projet, comment est-ce qu'il a émergé ?
Alors ce projet, il a un long parcours. En fait, il vient au départ de l'initiative d'une structure en protection de l'enfance qui donc gère des foyers, genre gère des MEX, et qui s'est interrogée après un audit, une espèce d'audit interne en fait sur son fonctionnement, aussi sur des nouvelles manières de travailler et sur la participation des jeunes, notamment des adolescents dans l'hébergement collectif. En fait, ils se sont trouvés dans une situation face à beaucoup de problématiques, beaucoup de problèmes, à la fois au niveau des jeunes, à la fois au niveau des professionnels. Et ils se sont dit, bon, bah, il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer de mieux entendre les jeunes, mieux entendre leur participation. Une fois qu'ils ont identifié le problème, ils étaient un peu démunis sur la manière de faire. Comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir faire participer des jeunes, de mieux les entendre ? Et à ce moment-là, ils se sont tournés vers la chaire publique, pour qu'on vienne les accompagner sur ces questions-là. À partir de ce moment-là, il s'est passé une année pendant laquelle on a construit un projet avec mes collègues, donc aussi sociologues, Julien Lévy, Gabriel Uribellaria et Louis Bourgois. Et pendant un an, en fait, on a construit le projet, on a à peu près défini ses contours, on a aussi cherché les financements qui vont avec. Et l'enjeu principal de cette année de travail, en fait, elle a été de passer d'une enquête au départ qui était souhaitée sur la participation des jeunes à une recherche participative. En fait, la distinction, elle est centrale parce que quand on dit qu'on veut faire une recherche sur la participation, on dit qu'on veut entendre mieux les jeunes, mais on définit au départ le sujet. C'est-à-dire, on veut vous entendre en tant que jeunes sur le fait de participer. Et nous, on a attiré l'attention sur le fait que peut-être que les jeunes, ils n'étaient pas très intéressés par la question de la participation. Et que si on voulait vraiment les écouter, il fallait à minima leur donner le choix du sujet qu'ils allaient traiter. Et donc, on est arrivé à monter cette recherche qui est finalement une recherche portée par l'université en partenariat avec des structures de protection de l'enfance.
Alors, on vient de comprendre effectivement le contexte dans lequel s'inscrit cette recherche, mais aussi sa genèse. Vous travaillez avec des adolescents et des adultes qui sont passés donc plus jeunes par ces MEX, ces maisons d'enfants à caractère social. Est-ce qu'on peut revenir peut-être, parce que vous êtes sociologue, sur les contraintes qui sont inhérentes à ces publics ?
Alors, il y a deux contraintes en fait qui sont d'abord le fait qu'on enquête et on travaille aussi avec des mineurs. Donc ça, c'est une première contrainte du point de vue ne serait-ce que de la protection des données personnelles ou des contrats de travail qui peuvent être établis. Et la deuxième contrainte, c'est que c'est des publics, des politiques sociales qui sont dits vulnérables. Donc on est en fait à la croisée de deux situations un peu complexes. Ça, du point de vue légal et évidemment moral, de la manière dont ces structures elles, nous donnent accès à leur terrain, au foyer, etc. En fait, au-delà de ça, de mon point de vue de coordinatrice, il n'y a pas d'autre enjeu que ça. L'idée, c'est qu'on puisse tous se mettre autour d'une table et travailler au cours de ce projet donc, qui va durer 18 mois, qui a commencé en septembre 2022, et qu'on se mette tous autour d'une table pour travailler. Et en fait, il se trouve que jusqu'à présent, ce travail se déroule très bien, sans technique particulière d'animation, sans problème particulier lié au fait que ça soit des mineurs, en fait. Par contre, après, bah, oui, effectivement, on traite de sujets qui sont sensibles, intimes et parfois très violents.
Et j'imagine aussi qu'il y a une espèce d'a priori, peut-être, qui dirait qu'il faut être dans la surprotection, la survigilance par rapport à ces publics. C'est ça, en fait, que j'entends de manière sous-jacente dans vos propos.
Oui, bah en fait, c'est vrai que moi, pour préciser, au départ, j'ai pas d'expérience ni professionnelle ni personnelle en fait, dans la protection de l'enfance. Du coup, au début de l'enquête, j'ai été très vigilante aux consignes des professionnels sur l'accès aux jeunes, sur leur manière de travailler avec eux. Il y a certains professionnels, par exemple, qui m'ont souligné le fait qu'ils allaient devoir préparer les jeunes avant les réunions ou qu'il fallait prévoir des techniques d'animation particulières parce que faire tenir un jeune plus d'une heure trente dans une salle, c'est compliqué en réunion. En fait, il se trouve que ça se déroule plutôt bien et que j'ai pas besoin de mettre en œuvre des techniques particulières parce qu'une fois qu'ils sont au titre de co-enquêteurs autour de la table, en fait, ça se passe très bien et ils ont plein de choses à dire et ils se saisissent même plutôt très bien de la parole comparativement aux professionnels qui sont parfois plus effacés, qui ont un petit peu plus de mal à s'exprimer sur des questions un peu d'intimité, de rapport avec les foyers.
Et juste pour une petite précision, pour nos auditeurs, vous avez parlé du fait que les personnes avec lesquelles vous travaillez sont mineures et que donc ça posait potentiellement problème pour des contrats de travail, c'est parce que toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez sont rémunérées ?
Oui, elles sont toutes rémunérées. Donc, sur le montage du projet, donc, il y a eu effectivement un calibrage pour mon contrat à moi de coordinatrice qui représente un mi-temps. Ensuite, les professionnels ils sont mis à disposition par les structures sur leur temps de travail, donc c'est du temps de travail classique. Et les adultes anciens placés, eux, ils sont rémunérés via des contrats de vacations. Et les jeunes mineurs, en fait, c'était compliqué de leur faire bénéficier aussi de ces contrats de vacation pour des questions légales. Du coup, on a choisi de les rémunérer sous forme d'argent de poche sur le même niveau de rémunération que les adultes qui ont été placés.
La question aussi, moi, qui me vient, c'est que du coup, vous êtes sur un territoire de centre d'hébergement qui, au départ, commande une enquête sur la participation qui devient, sur vos conseils de sociologue, une enquête participative. Est-ce que la transition, elle est facile pour ces centres d'hébergement ou est-ce qu'il y a des heurts ?
Alors la transition, elle s'est faite l'année avant le démarrage du projet, donc ça a été de longues discussions entre nous. Je dirais pas qu'il y a eu de problème particulier à transformer cette recherche sur la participation en recherche participative, dans la mesure où les structures étaient quand même bien conscientes de ce que ça impliquait aussi pour eux en termes de pouvoir sur la recherche et du fait que finalement le sujet en lui-même leur échappait un peu. L'organisation aussi de la recherche leur échappait un peu. Ce qui marche bien dans notre recherche, c'est qu'on travaille en partenariat avec donc deux structures de protection de l'enfance et qu'on travaille dans des bonnes conditions partenariales et qu'on se fait confiance, on a appris à se faire confiance, qu'ils acceptent aussi qu'on puisse aller parfois à leur rencontre. Très pratiquement, si je peux illustrer, on a commencé les premières réunions avec les directrices de structures qui sont venues participer à nos réunions de travail. Et il s'est trouvé que les premières réunions, les professionnels étaient assez silencieux. Et moi, j'ai émis l'hypothèse que c'était parce que la direction était présente et que parfois, certains professionnels se retrouvent face à leur directrice en cours de réunion. Et donc, je leur ai demandé de ne pas venir à une réunion, ce qui est quand même une contrainte assez forte, c'est-à-dire on leur a fermé l'accès à l'espace de travail. Et ils ont accepté en disant « Ok, c'est pour l'enquête, donc on ne va pas venir ». Et on a soumis la discussion au collectif. Donc j'ai posé la question, je leur ai fait part de mes doutes comme je le fais ici. Et ça a permis une discussion collective en disant non, c'est important que aussi les personnes de la direction soient présentes pour entendre ce qu'on a à dire en tant que jeune placé, en tant qu'ancien placé ou en tant que professionnel. Et c'est à cette condition-là que le discours il pourra être nourri et le débat aussi en fait, qu'on pourra nourrir une discussion plus large que seulement entre nous.
Donc vous avez commencé à l'évoquer un petit peu, mais l'enjeu de la recherche participative, finalement, c'est de produire de la connaissance avec des personnes qui ne sont pas forcément initiées à la méthodologie de recherche. Comment est-ce que vous avez œuvré pour pouvoir véritablement impliquer tout le monde dans ce processus ?
C'est une question compliquée. À la fois pour l'implication en tant que telle, ce qu'on observe, c'est que ça passe beaucoup par des liens, finalement, interpersonnels entre des professionnels et d'autres professionnels, entre des professionnels et des jeunes qui sont placés ou des jeunes qui ont été placés. En fait, les personnes qui ont été recrutées en tant qu'enquêtrices, très souvent, elles sont arrivées parce qu'une autre personne leur avait parlé du projet et que moi, j'avais été mise en contact avec elle par le biais de cette personne. Moi, j'ai fait mon travail d'expliquer ce que c'était que la recherche, que ça impliquait. Mais en tout cas, il y avait toujours soit une relation finalement de protection qui n'existe plus quand c'est le cas d'une éducatrice qui rappelle un ancien jeune qui était placé et qui en fait continue à exister. Aussi des liens affectifs. Dans l'enquête, on a un groupe avec une éducatrice qui vient avec deux jeunes qui sont placés. Donc, ils sont tous les trois co-enquêteurs. Et en fait, ils sont très attachés au fait de venir ensemble et au fait de participer ensemble. Donc tout ça repose sur des liens qui existent en dehors de la recherche et qui font qu'elle peut exister. Et en ce qui concerne le fait de effectivement traduire la recherche, sa méthode et ses outils, ses objets à des personnes qui n'en ont pas forcément la connaissance, votre question elle était posée au passé, mais en fait c'est un travail de tous les jours. Et à chaque nouvelle étape, c'est se re-questionner sur est-ce que les choses elles sont bien comprises, comment est-ce que je peux faire comprendre les enjeux. Au départ c'était compliqué parce que moi j'avais rien d'autre à dire que on va définir ensemble ce sur quoi on va travailler, mais le travail en lui-même, il était déjà difficilement appréhendable, par exemple par des adolescents ou par des jeunes ou des adultes qui sont très loin, ou même des professionnels en fait, qui sont très loin de ces problématiques-là. Donc c'est un travail au quotidien qui nécessite des réajustements, notamment quand on passe d'un travail qui est en collectif à des travails en sous-groupe plus individuels, c'est un peu la problématique du moment. Mais ça nécessite de se réinterroger toujours en fait, sur est-ce que le message il est bien passé, est-ce que les choses elles sont bien comprises. Et qu'est-ce que c'est que la participation ? Est-ce que la participation, c'est que tout le monde s'exprime autour de la table ? Ou est-ce que c'est que chacun prenne ce qu'il a à apprendre et qu'il le mette au service du projet commun ? En tout cas, ça pose beaucoup de questions.
Vous avez redirigé la recherche sur la participation vers une enquête participative. Sur cette deuxième phase, c'est quoi les objectifs de la recherche ? Est-ce que c'est de faire un plan d'action ou est-ce que c'est de faire quelque chose de très factuel en termes de « voici ce qu'on observe ». Est-ce que vous allez jusqu'au plan d'action ou pas ?
Alors ça, c'est une des questions en cours, même si l'objet de la recherche, c'est d'être une recherche universitaire. Donc elle a l'objet au départ de produire des connaissances sur un sujet et aussi, dans le cas de la méthode participative, de documenter en fait la démarche et la recherche. Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, il y a plein de flous, il y a plein de tâtonnements en fait, qui nécessitent d'être expliqués. Là, j'ai parlé par exemple rapidement de la rémunération, mais la rémunération aussi, c'est un tâtonnement. Sur quel niveau de rémunération on se base ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est pas juste ? Est-ce que le fait de trouver un rendez-vous commun à 10 personnes, ça permet à tout le monde de participer, d'être présent ? En fait, il y a plein d'enjeux autour de cette recherche. Et le but, ouais, effectivement, c'est de produire de la connaissance. Alors nous, on a choisi de travailler sur les ruptures. En fait, on s'est aperçu, après 3 mois de travail, que ce dont on parlait le plus, c'était toutes les ruptures qui pouvaient être occasionnées par le fait d'avoir vécu plus ou moins longtemps en foyer. On est vraiment sur la question des foyers, qu'il s'agisse des ruptures géographiques. Par exemple, parfois, on est placé très loin de chez ses parents ou très près. Des ruptures avec les amis, des ruptures avec ses activités, des ruptures scolaires quand on est du coup on change de lieu de scolarisation ou qu'on est déscolarisé. Des ruptures aussi avec les autres, avec les éducateurs, quand ça se passe mal ou quand ça se passe bien. Quand on change de foyer aussi. En tout cas, tous ces parcours étaient marqués par la rupture, partout, à tous les endroits. Qu'il s'agisse de ruptures négatives ou de ruptures aussi qui peuvent permettre parfois un nouveau départ. Donc nous, on a choisi de travailler sur cette question-là. Ce qu'on a calibré, c'est une enquête par entretien auprès de différents acteurs et de différentes personnes. Il y a des jeunes qui sont actuellement placés qui vont être interrogés, des professionnels, des associations, peut-être aussi des familles, pour essayer d'alimenter un peu cette dimension des ruptures dans les parcours.
Les co-enquêteurs sont directement touchés par les problématiques sur lesquelles vous vous posez des questions. Qu'est-ce que finalement ça va engendrer chez eux en fait, d'être au centre de la recherche sur laquelle ils co-enquêtent, puisque du coup ils se retrouvent dans un positionnement un petit peu particulier ? Comment est-ce que ça se traduit dans leur ressenti à eux ?
Je répondrai tout simplement que c'est à eux qu'il faut demander. Et que, en fait, c'est pas. Enfin, pour le coup, moi, mon rôle, il est moins là-dessus que d'essayer de comprendre ce que leur posture de co-enquêteur, elle fait à l'enquête. Et en l'occurrence, elle fait des choses super quand on va rencontrer les jeunes en foyer, par exemple. Moi, il y a plein de dimensions à côté desquelles je passe complètement, en fait. Et le fait que je sois accompagnée par des co-enquêteurs qui sont soit placés ou qui l'ont été, ça leur permet d'aiguiser leur regard sur des choses que moi, j'aurais pas perçues. Je donne un exemple qui est assez frappant. On est allé présenter le projet en foyer il y a peu de temps, donc dans un conseil des jeunes, où il y avait une dizaine de jeunes qui étaient présents. Et j'étais avec trois autres co-enquêteurs qui sont parallèlement des anciens placés. Et à la fin de la réunion, il y a une des co-enquêtrices qui leur a dit: je comprends pas comment ça se fait que vous soyez aussi nombreux. Moi, à votre âge, si on m'avait demandé de participer à une réunion comme ça, je serais pas venue. Et les jeunes ont dit, en fait, on n'a pas eu le choix. L'éducateur nous a dit, c'est une réunion obligée. Et en fait, moi, je me serais jamais posé cette question. Pour moi, c'était évident qu'ils étaient là. Je me suis pas dit dans quelles conditions est-ce qu'ils arrivent ici. Et en fait, cette question de l'obligation, elle nous a ouvert un champ de discussion aussi sur la liberté qu'ils estiment avoir dans cet espace de foyer. Qu'est-ce que les éducateurs leur imposent? Leur envie aussi de pouvoir discuter. En tout cas, voilà. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est moins ce que ça leur fait, parce que ça les regarde et que peut-être que j'ai même pas à être au courant de ça. Je finirai pour répondre à cette question là-dessus. C'est que aussi, en tout cas, c'est des discussions qu'on a eues cette semaine-là, parce que je participais à un colloque avec d'autres collègues qui font les mêmes recherches et qui nous posaient la question de savoir si parfois aussi la recherche participative, ça pouvait créer des choses négatives chez les gens. Qu'est-ce que ça crée aussi de troubles? Qu'est-ce que ça vient déstabiliser? Et alors ça, moi, j'ai pas de réponse pour l'instant parce que la recherche, elle est en cours. Mais en tout cas, je pense que c'est bien d'essayer de déplier un peu tout ce qui peut être déplié, des conséquences que ça a, de faire revenir des gens parfois pour parler de choses qui sont intimes et violentes.
Alors justement, ça me tend une perche pour vous poser une autre question encore vis-à-vis justement de ce qu'est la science et la recherche participative. Parce que quelque part, ce qu'on en comprend, c'est que ça permet de générer une intelligence collective qui est vraiment une force en fait dans le développement d'une recherche scientifique. Mais est-ce que la qualité des résultats qui émanent de ces recherches-là, elle est avérée? Est-ce que dans le milieu universitaire notamment, les résultats sont valorisés au même titre qu'une recherche, entre guillemets, je mets des énormes guillemets, traditionnelle? Ou est-ce qu'il y a déjà une forme de rupture entre ces nouvelles méthodes innovantes et les méthodes plus classiques?
Je suis pas sûre que je puisse dire que ça l'est ou ça l'est pas, que je puisse avoir une réponse franche. En revanche, de mon point de vue de coordinatrice, mais qui est finalement assez nouveau, parce que même si j'ai participé donc à toute la première année de négociation avant le contrat d'un an, là ça fait seulement 9 mois que la recherche elle a démarré, et moi j'avais jusqu'à présent pas expérimenté cette méthodologie-là. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'elle est extrêmement exigeante du point de vue de la méthodologie et de fait des enjeux théoriques en fait qui sont derrière. D'organiser une recherche participative, de coordonner, c'est se poser en permanence la question de savoir si ce qu'on fait, c'est reproduire une inégalité, reproduire de la violence au sein d'un espace collectif, être en mesure de bien entendre ce que les personnes ont à dire, de pas impliquer des situations dans lesquelles les personnes vont se sentir forcées de parler ou de dire des choses qu'elles n'ont pas envie de dire. En tout cas, moi, je trouve que c'est une manière un peu d'actualiser, moi, ma pratique de sociologue au regard d'une extrême exigence, parce qu'en fait, aussi en face de moi et à côté de moi même plutôt, j'ai des co-enquêteurs qui me demandent de comprendre et qui me demandent de comprendre ce qu'ils font ici. Et eux, ils ne maîtrisent pas toujours en fait le cadre. Et moi, je dois l'expliquer. Et je dois aussi respecter le fait que le contrat qu'on s'est donné, vous participez, vous mettez à disposition de l'enquête ce que vous voulez de vos savoirs d'expérience de foyer. Pour les professionnels, c'est leur savoir professionnel. Et moi, je mets à disposition mes savoirs méthodaux. Ça pose tout un tas de questions qui sont très exigeantes, qui fonctionnent aussi beaucoup par tâtonnement, comme je l'ai dit, et qui mettent le chercheur, je pense, quand même à rude épreuve de son assurance aussi dans ce travail-là. Et je pense que c'est des choses qu'on ne fait pas souvent, en fait, d'expliquer à qu'est-ce que c'est que le travail de chercheur au milieu de tout ça et à quoi ça peut confronter aussi en termes de posture professionnelle et d'enjeux professionnels.
La question, moi, qui me vient comme ça, c'est que vous avez commencé à nous parler un peu de méthodologie, donc vous avez un peu gratté la carte de l'enquête participative. Une fois qu'on sait le sujet qu'on va aborder dans le cadre, vous l'avez dit, de ces sciences participatives et le territoire, et finalement le public. Est-ce que vous reprenez des méthodologies d'enquête semi-directive comme vous le faites habituellement, ou est-ce qu'il y a des outils que vous développez spécifiquement à ces cadres et qui peuvent être reprises dans d'autres enquêtes par la suite ?
Alors non, c'est vraiment à la fois un travail de collaboration, et en même temps, moi je suis aussi là en tant que sociologue pour mettre à disposition position mon savoir méthodologique, donc des outils de la sociologie classique. Ça sera plus parlant d'illustrer, mais on a choisi de faire une enquête par entretien semi-directif. D'abord parce qu'on s'est posé la question de savoir ce qu'on voulait savoir. Et ce qu'on voulait savoir, c'est de comprendre, en fait, d'aller à l'écoute des jeunes, de créer des conditions de dialogue qui ont un peu naturellement fait le recours aux méthodes qualitatives. Et aussi parce que les limites de ma coordination, c'est que, par exemple, on s'est posé la question de savoir si on faisait une enquête par questionnaire ou qu'on intégrait dans l'enquête un enjeu plus statistique. Et moi, je ne suis pas compétente sur ces questions-là, en fait. J'ai des compétences en statistique, mais ce n'est pas mon cœur de métier. Honnêtement, très rapidement, ça, voilà, ça aurait été limité. Donc, il y a aussi un enjeu de ce qu'on met dans le pot commun. De ces savoirs différents, hein, qu'ils soient méthodologiques ou personnels ou professionnels, et de ce qu'on fait de tout ça. Donc, pour finir, ouais, effectivement, sur l'enquête, là, on construit un plan d'enquête, on construit une grille d'entretien ensemble, donc on établit des questions ensemble, des sujets qu'on veut aborder, et on va faire les entretiens ensemble. Alors là, pour l'instant, on n'en a fait qu'un seul, donc je ne peux pas plus parler de ça, mais en tout cas, ça s'est bien passé, et ça donne des résultats assez intéressants qui s'inscrivent dans une recherche sociologique classique.
Et ces résultats en question, quand vous les aurez, est-ce que, pour nos auditeurs et auditrices, vous avez un endroit ou un lien ou une ressource, en fait, qu'ils et elles pourraient consulter pour se renseigner un petit peu plus ?
Alors ça va dépendre du choix qu'on va faire collectivement, des retours qu'on veut faire sur cette enquête. C'est une discussion qu'on n'a pas eue encore parce qu'on est très pris par les questions d'ordre méthodologique, c'est-à-dire que là, on passe beaucoup de temps à construire la grille d'entretien, à essayer de contacter les personnes pour trouver des gens qui voudraient bien nous répondre. Tout ça prend beaucoup de temps et on n'a pas tout à fait déterminé la manière dont ça va être communiqué, au-delà de moi, mon travail de sociologue, de communiquer autour de ça, mais qui du coup reste dans le cadre très recherche sociologique, quoi. Donc pour l'instant, ces questions, elles sont un peu en suspens. En tout cas, il y a une volonté de faire en sorte que ces résultats, ils soient aussi discutés, notamment auprès des partenaires et des structures qui sont partenaires, qui attendent aussi de savoir qu'est-ce que finalement vous avez retiré de tout ça. Peut-être j'insiste aussi sur le fait que, au-delà de ce qu'on va produire à la fin autour de cette enquête et des ruptures très précisément, il y a aussi tout un enjeu de documenter la participation à l'œuvre en cours pendant ces 18 mois d'enquête. Et là, c'est un peu la mine d'or, en fait, en tout cas, de choses qui se passent, des incidents aussi, des conflits qu'il peut y avoir, des retombées positives aussi, hein, y en a. Et en tout cas, d'essayer de comprendre comment la participation, elle peut être mise en œuvre dans ces recherches-là, qui implique et des professionnels, et des jeunes placés, et des anciens placés, et aussi des responsables de structure, qui du coup, eux, viennent aussi chercher des informations, viennent aussi dialoguer avec tous ces profils qu'ils voient en fait tous les jours, d'une manière un peu différente. Donc il y a vraiment un enjeu de travail chemin faisant qui est essentiel dans la recherche.
Merci beaucoup Camille d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de l'enjeu effectivement des enquêtes participatives et de la science participative auprès des adolescents et des adultes anciennement placés dans les centres d'hébergement qu'on appelle les MECS, les maisons d'enfants à caractère social.
Merci beaucoup.
Impact saison 4 épisode 7, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que cet échange vous a plu, et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous très prochainement avec la seconde partie de cette saison sur les recherches participatives. En attendant, et plus que jamais, n'hésitez pas à découvrir et partager nos précédents épisodes sur votre plateforme de podcast préférée.
À très vite dans Impact, le podcast qui vous permet de comprendre les sciences sociales.